شفيت ع بحر الميال شفيت ع بحر الميال هذا الشعب نهار جديد رح يجي شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلي على طول وقت شفت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
احكي لك عندك اليوم قالي ريما احلم به احكي لك عندك اليوم قالي ريما استنى فيه قالي من شانو كفحنا طول العمر هاد اليوم جديد راح يجي عن قريب هذا مكتوب مهما يقولوا هذا مكتوب مهما يفكروا هذا مكتوب سوف نعود وارتاح يا فلسطين
شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلي على طول وقت شفت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
Ils ont volé nos terres, nos récoltes, nos paysages souillé nos jardins, nos maisons et nos villages insulté notre histoire, piétiné notre héritage
Ils ont sali notre paradis avec des criages
Ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères Ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire Ils ont cru que notre peuple allait se taire Grand, fier, fort, digne resteront les enfants de Palestine Blanc, vert, rouge, noir sont les couleurs De la lutte et de l'espoir Même si le monde a décidé De rester sous silence, de rester sourd Au râle de la souffrance Palestine, Palestine Toujours résistera Palestine, Palestine Jamais ne se rendra
Chufit à bahar el-mey Alami li taïm Chaif hada shab Jalmi ala tout l'waïm Chufit à bahar el-mey Alami li taïm
سقطت القنابل فاقونا كل مطر هتاش فكروا أن قوتهم اسقطتنا ما يفهموش ما رح نستسلم أبدا أبدا ما يفهموش ما رح نستسلم سوف يسقطون ما في جدار ما في جيش ما في حاجز لا يوقفونا أرض واحدة شعب واحد مصير الملايين هذه هي فلسطين
شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلي على طول وقت شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف
الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو القمر يجيب أحلام والشمس راها تدي صح الإيمان والأمل مازال عندي ما لتبسم من وجهك الدمعة محي خطر مهما كان نهار جديد راح يجي إن شاء الله.
Oui, Inch'Allah, en tout cas, Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être un jour, il y aura la paix en Palestine et les Palestiniens pourront retourner vivre dans leur village. Mais pour l'instant, ce n'est définitivement pas le cas. Et nous avons en plateau Elsa Bloch, bonsoir.
Bonsoir, Juliette.
Qui a réalisé son premier documentaire qui s'appelle Contrôle Alt Sup Palestine 2008. Donc c'est un documentaire réalisé lors d'une mission civile de la FPS en Palestine sur la situation palestinienne à ce moment-là et lors de ce voyage-là. J'imagine que évidemment c'est contextualisé en fonction du moment où tu as fait ce voyage. Peut-être avant de parler du documentaire, est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi tu as voulu faire un documentaire en Palestine?
À vrai dire, c'est une question que je me suis moi-même posée en fait en partant. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et c'est une question qu'on m'a posée aussi et je ne savais pas très bien y répondre en fait. Et finalement, je crois par envie de découvrir une situation par moi-même, parce que c'est un endroit qui m'interpellait comme d'autres endroits, mais particulièrement celui-là. Et je sentais une situation très injuste et j'avais envie de voir un peu par moi-même ce qu'il en était. Concrètement, et ça me semblait une bonne façon de partir avec une mission de solidarité, parce que d'ailleurs à la base en fait je voulais juste participer à la mission de solidarité, je voulais pas du tout faire un film quoi. Ça faisait plusieurs années qu'on m'en avait parlé. Donc je précise, c'est la FPS de Rennes qui organise donc les missions cueillette d'olives tous les ans, dans l'idée de mettre un peu en contact les populations en fait. Donc parfois ils emmènent des élus locaux, mais sinon des gens qui ont simplement envie de rencontrer d'autres gens quoi.
Et comment ça se passe pour participer à une mission comme ça de la FPS? On va les voir.
C'est la FPS de Rennes. Alors parce que la FPS fonctionne vraiment par antenne locale. Je connais pas du tout les gens de Paris. je pense que je vais prendre contact avec eux ensuite avec ce film. Ils ont un site internet et donc j'ai écrit un mail tout simplement en parlant de mon intérêt pour l'émission.
Et j'imagine qu'avant de partir, on a un peu une formation sur la situation.
Normalement, enfin, il y a plusieurs réunions, il y a au moins deux ou trois réunions de préparation avec des gens qui sont déjà partis, avec les gens qui coordonnent un peu, etc. Aussi pas mal de règles, de consignes pour passer la frontière, même là-bas, pour notamment par rapport aux images et tout, pour pas se retrouver dans des situations trop compliquées, quoi. Et pas se retrouver en prison, comme un bêtement, quoi. Pour moi, ça a été un peu rapide, parce que du coup, j'ai fait juste une réunion, et avec cette idée de... Parce que très vite, donc, Dominique m'a parlé de cette idée de faire un film qui avait des gens qui pourraient parler de leur situation par rapport à la séparation de leur couple et donc de leur famille, des enfants et tout, d'un côté et de l'autre de la frontière quoi.
Alors t'es partie comme ça, donc t'avais suivi cette petite formation et vous y alliez pour faire quoi?
Alors on y allait pour participer donc aux cueillettes d'olives. Donc c'est au mois de novembre, c'est la saison des olives et c'est l'occasion pour donc sur le prétexte enfin de d'aider les paysans à ramasser des olives, d'avoir un peu une utilité concrète. Mais bon, ils peuvent très bien le faire avec. Enfin surtout là-bas, il y a vraiment pas de problème de solidarité paysanne surtout, mais même interprofessionnels, les gens sont super solidaires les uns des autres, donc c'est pas tellement pour les aider à ramasser les olives, c'est plutôt pour le fait qu'il y ait des internationaux, qu'il y ait des blancs en fait, enfin des Européens quoi, ça avec des passeports, etc. Ça fait que ça les aide à faire valoir leurs droits en fait sur des terres qui sont souvent spoliées, donc bon, sur lesquelles ils n'ont plus aucun droit. Il y a pas mal de terres agricoles donc qui sont annexés par des colonies, par un camp militaire d'abord, et ensuite qui s'agrandit, les logements pour les militaires, ensuite ça devient une colonie. Autour de la colonie, ils font je sais plus combien de mètres de zone de sécurité, tout ça, ça prend sur les terres agricoles. Et, euh, et, euh, Et donc, les terres qui sont soit très proches des colonies, et soit carrément derrière certaines barrières, en fait, il y a même des terres qui sont derrière certaines barrières qui sont quand même toujours exploitables par les paysans palestiniens. Mais s'ils ne sont pas accompagnés, enfin, la plupart du temps, quand ils sont seuls, soit ils se font attaquer par les colons, soit ils se font bloquer aux portes, ils restent des heures aux portes à attendre qu'on leur ouvre pour aller dans leur champ, quoi.
Mais justement, dans le film, on voit, enfin, ce que vous dites, enfin, tu disais que la cueillette d'olives, c'est un prétexte. En même temps, c'est aussi très très symbolique, puisque l'olivier, c'est la terre qu'ont encore les Palestiniens. Donc, il y a quand même une autre dimension dans cette cueillette d'olives.
Ouais, carrément. Ouais. En plus, c'est symbolique. Et puis, c'est pas seulement symbolique, c'est symbolique concrète, c'est réel, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux en plus. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de l'agriculture, je veux dire, ça je pourrais peut-être pas en parler très, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, quoi, autour de l'olivier, mais aussi autour de l'agriculture en général, quoi. Les Israéliens sont considérés comme des génies de l'agriculture, quoi, parce qu'ils font pousser des oranges dans le désert, mais c'est parce qu'ils ont mis en place le goutte à goutte, etc. Enfin, et c'est une autre approche de l'agriculture, il me semble, quoi. Et puis, ouais, les oliviers, pour les Palestiniens, c'est un symbole, c'est sur plein d'affiches, c'est une vraie... C'est leur enracinement. Et il y a cette image très forte aussi qui n'est plus dans le film, d'ailleurs, mais parce que je ne l'avais pas en direct, mais qui est... En fait, on nous a fait un diaporama. Là-bas, on a beaucoup... En fait, on n'a pas beaucoup cueilli d'olives, finalement, parce que la saison était passée. Et comme ça, ils sont obligés d'organiser ça très en amont. Et en fait, des fois, ça tombe avec les climats, tu sais jamais trop. Nous, on était un peu à la fin des olives. Donc, on a cueilli un peu, mais on a surtout rencontré beaucoup de gens, quoi. Ils nous accueillaient, ils faisaient des conférences, donc le syndicat agricole, enfin, tous les gens qui participaient à la coordination sur place. Mais aussi des rencontres spontanées, des gens qui nous disaient, la voisine de Raed, où on habitait, qui nous dit « Ah, venez voir, on essaye de monter une école, de construire une école, venez voir. » Mais un jour, oui, on a eu un diaporama du syndicat agricole, et il y avait cette image très forte de l'olivier déraciné, quoi. Et ça, c'est pour vendre ensuite, quoi. Enfin, dans pas mal d'endroits, ils viennent déraciner les oliviers, ou alors sur les trajets des murs, des routes et tout. Et ils les déracinent et ils les vendent ensuite...
Il y a beaucoup d'artisanat qui est fait aussi à partir du bois d'olivier, qu'on retrouve l'artisanat religieux qu'on peut acheter.
Certainement, je n'en ai pas trop vu. Mais... Par contre, dans le film, il y a aussi cette image aussi de l'olivier qui est forte, je trouve, qui est symbolique pour le coup. Mais c'est très étrange parce qu'il y a un checkpoint, un des principaux checkpoints donc, du mur, qui sont maintenant des gros checkpoints énormes, et donc blocage absolu, quoi, devant le mur, tout le monde est bloqué, tous les côtés palestiniens, tout le monde donc est bloqué, et côté palestinien, enfin en fait c'est côté palestinien des deux côtés, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est ce que dit le mec d'ailleurs dans le circuit alternatif, il dit ça c'est important, 80% du mur, 80% du mur sépare des palestiniens de palestiniens, quoi. Mais bon, en tout cas cet endroit il reste un olivier, quoi. Alors c'est peut-être parce que les ouvriers qui construisent les murs sont souvent palestiniens, en fait, comme les ouvriers qui construisent les colonies, parce qu'il n'y a pas de boulot, quoi. Tout est fait pour empêcher la vie, quoi, d'avoir lieu, la vie sociale, la vie économique d'avoir lieu en Cisjordanie. Du coup, parce que bon, moi je parlerai que de la Cisjordanie, hein. Gaza, vraiment, j'y ai pas été, c'est un autre monde, je pense que c'est vraiment une autre dimension, c'est pas du tout... C'est beaucoup plus terrible, quoi, je pense, mais voilà. Mais...
Et quand tu parles des rencontres, justement, le film commence par une certaine manière de voir la ville et de voir en tout cas la Cisjordanie. Et en fait, tu es accompagné par un Palestinien qui fait une sorte de, comment on pourrait dire, un voyage,
une visite alternative
de la ville. Et c'est les murs qu'on voit surtout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel type de visite vous faites? Parce que ça ouvre vraiment le film et ça permet de voir quand même les choses.
Ouais, ben d'ailleurs en fait le premier titre du film c'était Circuit alternatif en Palestine. Bon, finalement Contrôle Alt Sup c'était plus fort parce que c'est un graffiti qu'il y a sur le mur justement, donc on voit au moment avec lui justement. Lui en fait comme pas mal de gens leur manière de résister, leur manière de lutter c'est d'essayer d'ouvrir les yeux aux populations d'Israël, quoi. Et d'ouvrir les yeux aux touristes qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en Terre Sainte, des pèlerins, etc., qui vont par exemple à Bethléem, qui est en Cisjordanie, mais qui ne voient rien. Enfin, on peut très bien aller là-bas et voir les beaux paysages. Et
puis c'est moderne, on est presque aux États-Unis finalement.
Carrément, ouais, c'est surtout côté israélien. Oui, enfin, là, il y a une fracture, il y a une fracture super forte, quoi, entre. C'est vrai, entre un monde, les États-Unis, mais même au niveau l'ambiance, quoi. C'est comme un peu comme à Paris, c'est plutôt froid. C'est des mondes plus bétonnés, plus capitalistes, avec une autre forme de lumière, tu vois. Mais beaucoup de lumière électrique, quoi. En Palestine, il y a plus de lumière, des feux, tu vois. Red, on va accueillir les olives avec lui. Il prend il fait du feu, il fait du thé, il nous offre du thé. Enfin, tout le monde est toujours très, très accueillant. Mais bon, donc pour le circuit alternatif, là, par exemple, c'était une rencontre complètement au hasard. Enfin, en fait, on était partis... Bon, grâce au groupe, vraiment, toutes ces rencontres, c'est grâce au groupe de militants. Parce que moi, j'arrivais là-bas, eux, ils sont dans une démarche militante, ils font énormément de choses. Donc c'était des Nantais. Parce que c'est la FPS de Nantes, donc étant proche de Rennes, ils font pas mal de choses... ensemble. Et puis donc cette semaine-là, la semaine où je suis partie, il se trouve que c'était des Nantais. Moi, je les connaissais pas du tout avant de partir. Je les avais même pas rencontrés avant, parce que comme je te dis, j'avais été qu'à la dernière réunion et ils avaient pas pu venir. Et voilà, et ils ont, en fait, on devait rencontrer une autre personne qui est israélien, Varshomsky, qui a écrit des livres, tout ça, qui a une association, enfin, je sais pas, c'est peut-être une société, enfin, de presse indépendante à Jérusalem, et qui parle très très bien, paraît-il, je l'ai pas rencontré finalement, qui parle très très bien de la situation, etc. Et il n'était pas disponible. Donc on a.
Vous n'avez pas vu Varshavsky.
Voilà, donc on s'est rabattu sur le circuit alternatif qu'on avait trouvé dans le seul guide, je crois que c'est le seul guide touristique de la Palestine. Il existe, il est vendu à Bethléem, par une espèce d'office du tourisme qui est aussi une forme de résistance, enfin palestinien. Donc c'est le seul guide palestinien. Parce que sinon, quand on prend un guide touristique, moi avant de partir un peu par camouflage, j'avais un guide touristique d'Israël et. Dans tous les guides touristiques d'Israël, Israël, c'est toute la Palestine, quoi. C'est pas juste, enfin, il y a pas la Cisjordanie, quoi. La Cisjordanie, c'est dessiné avec des petits pointillés, comme si c'était un département, quoi. Enfin, c'est pas, voilà. Donc, c'est clair. Mais voilà, et donc, il nous a promené, comme il fait. En fait, c'est sa forme de lutte. Il se fait arrêter régulièrement pour ça. Et il continue et c'est un mec qui a fait de la prison, comme beaucoup beaucoup de gens là-bas. Il a dit, la première fois que j'étais en prison, j'avais 13 ans. Et voilà, c'est sa forme pour montrer ce qui se passe, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il montre, justement ?
Bah, il montre les murs, c'est vrai, principalement. Ça, c'est le... Bon, en plus, moi, je l'ai utilisé dans le film pour parler du mur. Mais il parle pas que de ça. Ça dure 2-3 heures.
Oui, on voit, par exemple, il explique comment on reconnaît les maisons palestiniennes des maisons israéliennes, mmh. avec les tanks d'eau qui sont au-dessus des toits, ouais. Des Palestiniens. Et il explique aussi la différence de consommation d'eau entre Israël et la Palestine, alors que finalement, c'est quand même la même pluie et le même fleuve.
Ah ouais, mais là, il y a une appropriation de l'eau par les Israéliens qui est terrible, quoi. Même en Cisjordanie. Il dit même, ça, je crois que ça y est, c'est plus dans le film, mais il dit à un moment... Même en Cisjordanie, les Palestiniens achètent leur eau aux colons israéliens, quoi. Mais cette histoire de... En fait, il nous éclaire, parce que quand on est là-bas, on se pose plein de questions. En fait, on a vachement de mal à distinguer, même les colonies, par exemple, on ne comprend pas. Au bout d'un moment, on a bien compris, les colonies, c'est ces espèces de villages vacances posés sur le haut des collines, avec des toits tout rouges. Et, enfin, de loin, ça donne cette impression, des trucs hyper florissants, avec des fleurs et des arbres, et très verdoyants, comme ça. Parce qu'ils pompent l'eau, quoi. Ils pompent l'eau, ils bouffent l'eau, ils bouffent tout. Et oui, les tanks, c'est représentatif de ce qu'ils nous montraient, quoi. Ils nous montrent donc un lieu, ils disent, voilà, ici, si vous voulez reconnaître les maisons israéliennes des maisons palestiniennes, regardez juste les toits. Sur les toits des Palestiniens, il y a toujours un réservoir en plus. Il y a toujours deux tanks. Il y a le système de chauffage et, enfin, deux réservoirs. Et le réservoir d'eau pour conserver l'eau, quoi. Au cas où on est coupé, parce qu'on est tout le temps coupé. L'eau est tout le temps coupée. Tandis que les Israéliens n'ont pas besoin, quoi. Il y a l'eau courante, hein. C'est un pays riche.
Alors, pour revenir un tout petit peu sur la jeunesse du film, donc au départ, on a compris, tu pars là-bas donc pour une mission civile. Et pourquoi prendre une caméra ? C'est quoi ce geste au départ ? On pourrait partir avec un carnet, un crayon, et puis
là, toi, photo,
c'est une caméra.
Ouais, bah ça.
Est-ce que c'était ça, au départ pour en faire un journal de bord ou c'était dès le début dans l'idée d'en ramener quelque chose? Et est-ce que du coup, tu avais déjà un sujet en tête en partant?
Bah, le sujet en tête en partant, c'était les familles séparées. Donc c'était de rencontrer Raed et Neta qui sont dans le film et éventuellement trouver d'autres personnes qui pourraient être dans cette situation. Mais c'est vrai que ça aurait dû être un repérage en fait. Si j'avais vraiment voulu faire un documentaire. Un produit, trouver de la. Enfin, il aurait fallu que je l'écrive. D'ailleurs, j'ai bien l'intention d'en écrire d'autres sur la Palestine et de le faire autrement. Mais là, là, il y avait un peu. En fait, il y avait une échéance à Rennes, il y avait un festival sur Jérusalem. Donc, je voulais faire quelque chose, quoi, recueillir des témoignages. Mais j'avais pas vraiment une idée précise en tête, quoi. Et après, pourquoi une caméra et pourquoi pas un carnet, ça, c'est. C'est une question que je me pose des fois, mais enfin, moi j'ai un désir de cinéma, d'image, comme de son aussi, mais j'ai parfois aussi des désirs d'écriture ou même de je sais pas quoi, d'autres formes d'expression, mais l'image ça me semble un... En même temps c'est un médium compliqué, quoi, mais en même temps je pense que c'est très... Ça permet de dire des choses de manière... Ça permet de faire de comprendre des choses, il me semble, ou de faire sentir des choses d'une manière... qui me plaît.
Il y a un plan comme ça dans ton film où on voit qu'il y a ses parlants, il y a pas de parole et on voit juste une caméra de surveillance qui bouge comme si c'était un petit humain en fait qui surveille en fait l'autre côté du mur, c'est-à-dire là où il y a les Palestiniens. Bah là, je trouve que c'est un exemple qui montre que l'outil que tu as utilisé, à savoir la caméra, est vraiment parlante. Il n'y a pas besoin de mots et on voit une réalité par cette image. C'est un exemple d'image qui me vient en tête.
Ouais, pour moi c'est un exemple d'utilisation du médium. Quoi, détourner, enfin, c'est voilà, l'image comme moyen de contrôle, quoi. Mais on a les mêmes en France, hein, les caméras télécommandées, c'est impressionnant, ouais, ça bouge, c'est télécommandé en fait. Il y a un mec derrière qui s'amuse à regarder. Et le pire, c'est que cette caméra là, en fait, elle vise un cimetière, c'est-à-dire que la caméra elle est sur l'ancienne enceinte de Jérusalem qui entoure la vieille ville de Jérusalem, et juste elle est à un endroit sur un cimetière musulman de l'autre côté. Enfin,
mais justement, c'est aussi un exemple d'absurdité que tu montres beaucoup dans le film, où bah, l'absurdité, c'est aussi les Israéliens qui ne voient pas eux-mêmes la réalité qui les entoure. Mmh. Et de même, on a l'absurdité, on leur vend en fait une sécurité. C'est ça que qu'on perçoit dans ton film. On vous met des frontières fermées, des murs, on vous vend la sécurité. Et c'est ça qui fait que vous êtes Israéliens et qu'on va repousser les territoires jusqu'au...
Ouais, et puis on entretient. Justement par l'image aussi, par la télé, mais même ici en Europe, on entretient aussi la peur, quoi, la peur des Arabes, quoi. Vraiment, c'est moi ce que je disais hier, je me suis vraiment confrontée à mes propres stéréotypes. Vraiment, j'étais étonnée de les avoir, quoi. Je me suis aperçue que j'avais plein d'idées préconçues sur le monde arabe, enfin en tout cas sur les Palestiniens, ou etc., le Hamas, et nani, nana. Mais ouais, j'ai trouvé une réalité très différente. Et donc, oui, Neta aussi le dit très bien, comme ils alimentent la peur.
Quoi. Alors, Neta, peut-être rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Qui
oui,
est Neta?
Alors Neta, c'est une Israélienne qui a pris conscience à 15 ans, comme elle le raconte dans le film, qu'elle était dans un monde. Qu'il y avait une occupation, quoi. Il y avait quelque chose qui était un peu. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui était différent par rapport à ce qu'on lui faisait, à ce qu'on lui racontait depuis qu'elle était môme, quoi. Et elle a fait beaucoup de démarches, justement, d'aller en Cisjordanie à une époque où. C'est l'époque des accords d'Oslo, où il y avait des réunions qui réunissaient des Israéliens et des Palestiniens et qui faisaient des activités ensemble. C'est là qu'elle a rencontré donc son mari. Un Palestinien. Et donc c'est un des rares couples israélo-palestiniens. Elle dit qu'il y en a une centaine d'après elle. Mais elle dit qu'elle refuse qu'on prenne ça comme prétexte pour dire oui, c'est juste un problème entre deux peuples, ou c'est un problème de religion, encore pire, ça n'a vraiment rien à voir avec la religion, c'est vraiment un problème politique, quoi. Et ça, elle dit, moi je veux pas qu'on m'utilise pour dire qu'on utilise mon amour avec mon mari, quoi, et mes enfants comme un exemple des possibles réunions, comme si le seul problème c'était on nous laisse pas vivre, enfin comme si le seul problème c'était il faudrait qu'on vive ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Alors bon, bien sûr c'est un moyen, d'ailleurs elle dit c'est comme ça que je l'ai rencontré. Après, ils ont été virés du groupe, hein, quand même. C'est quand même assez symptomatique.
Vous faisiez partie d'un groupe de dialogue entre Arabes et Juifs.
Ouais. Enfin, juste, elle dit quand même, je veux parler pourquoi, quoi. Pourquoi c'est pas possible de vivre ensemble ? Elle, elle est dans cette démarche-là. Pourquoi politiquement ? Il faut dénoncer, il faut trouver des solutions, il faut trouver des moyens de lutte, en fait. Donc elle est dans une... Elle travaille dans une association, elle a participé à fonder une association à Ramallah, qui travaille sur... qui essaye de mettre en commun les luttes, en fait. Donc, par exemple, les luttes de... Ils vont avoir des fonds d'archives sur des luttes en Afrique du Sud ou en Algérie... Et tous des exemples de résistance à l'occupation, quoi.
Un pays oublié sous les tonnes de tabous, ceux de l'État d'Israël et de son histoire un peu floue. Tout commence il y a longtemps avec la Bible et les rabbins et le rêve messianique d'un État israélien. Plus d'un siècle que certains achètent là-bas des terrains. En 17 de Rothschild avait acquis le sien. Étrange expansionnisme réduisant les Arabes à n'être que réfugiés ou devenir kamikazes. Réfugiés sur des terres depuis des siècles habitées. Kamikazes plein de plastique, c'est tout ce qu'on leur a laissé. Un passé plein de souffrance ne peut pas tout justifier. Les pogroms et l'Holocauste ne doivent pas nous empêcher de nous positionner pour un peuple séquestré par un autre héritier. Les paroles d'Herzl, les humiliations, persécutions n'expliquent pas tout. Les Arabes n'ont rien fait, c'est en Europe, ça s'est passé. Les Dreyfus et les insultes et les millions de juifs gazés. L'étoile jaune, Varsovie, son ghetto, les déportés. Ne fais pas trop le martyr si aujourd'hui c'est toi qui tire. On sait quel peuple est maintenant dans la ligne de mire. Dans le camp des oliviers coupés. Comme à Berlin et une terre morcelée. D'un côté un arabe au pied d'un olivier coupé, et de l'autre un colon près des réserves d'eau. Et l'Europe en train de se branler sur les accords d'Oslo. Big up à l'ONU pour le partage de ce gâteau. Combien les juifs ont raqué pour avoir ce morceau. Et qui tape trouve l'Occident, les assiettes sur la table. Mais la vie à Gaza tu la trouves confortable. Combien de pierres les enfants devront-ils encore jeter? Combien de pyjamas plein de sang sous les tirs des mortiers? Un peuple qui donne à un autre peuple la terre d'un troisième. C'est l'Europe qui déshabille Ahmed pour habiller Cohen. L'Europe qui déshabille Ahmed pour habiller Cohen. L'époque où l'on vendait les terres qui nous appartenaient pas. Demande à l'Angleterre, c'est elle qui a joué ce rôle-là. C'est l'histoire d'un mandat, du deal de la Terre Sainte. Puisque les juifs ont souffert, l'Europe va assouvir leurs plaintes. Se racheter une bonne conscience en leur vendant la Palestine. Le destin de tout un peuple dans une poignée de centimes. 1948, c'est l'État d'Israël. Expulsion de Palestiniens et création de villes nouvelles. Apprentissage de l'hébreu, développement de l'armée. Implantation de colonies en territoires occupés. Des terres annexées pour que les Arabes ne construisent pas, pour qu'ils ne cultivent pas et pour qu'ils ne grandissent pas. En faire partir un max et les empêcher de revenir. Des terreurs dans les villages comme dans celui de Deir Yassin. Entre les pierres de ce mur et les pierres de l'intifada, je suis dans le camp des oliviers avec ceux qui mènent ce combat.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, et aujourd'hui, avec les oreilles loin du front, nous sommes en Palestine avec Elsa Bloch, une réalisatrice qui a fait un documentaire Contrôle Alt Sup Palestine 2008, donc justement sur un voyage en Palestine. Avant la pause musicale, tu nous parlais de Neta, une des personnes que tu as interviewées dans ton film, qui est mariée à un Palestinien. Et qui, en se mariant à un Palestinien, a découvert, d'une certaine façon, la différence de statut qu'il existe au sein d'Israël entre les juifs, les non-juifs, les arabes, qui peuvent être d'ailleurs juifs ou pas, et ouais. Quelles sont les réalités juridiques de...
C'est marrant, j'ai l'impression que les... Je sais pas, hein, enfin, c'est pas marrant du tout, hein, d'ailleurs, mais... que les juifs... arabes, les juifs séfarades d'origine arabe ont du mal à se définissent pas du tout comme arabes. D'ailleurs, c'est elle qui le dit, quoi. Elle dit, ça, elle en parle plutôt sur, quand elle parle de l'identité, un peu, de la question de l'identité. Après, sur les statuts officiels, oui, elle est juive. Elle est juive ashkénaze, donc elle fait vraiment partie de l'élite, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle le dit, hein, de l'élite sociale. Et c'est vraiment une société, Israël, c'est vraiment une société... ce que j'en ai vu, hein, et ce qu'elle m'en a raconté, Neta, c'est que c'est vraiment très, très hiérarchisé, c'est vraiment un régime d'apartheid, en fait, ouais, pour les Arabes, pour les Palestiniens. Il y a vraiment une différence, effectivement, juif, non-juif. Il y a cette possibilité de faire Aliya, pour n'importe quel juif dans le monde, de devenir israélien. Tandis que les Palestiniens qui sont d'origine palestinienne, ils n'ont pas la citoyenneté israélienne. Ils sont restés donc après 48, donc ce qu'on appelle les Palestiniens de 48. C'est les Palestiniens, donc les 20% de Palestiniens de la population israélienne. Donc 20% de la population israélienne sont des Palestiniens qu'on dit de 48, et donc ils n'ont pas du tout les mêmes droits.
Mais ils sont résidents, par exemple, ils n'ont pas le droit de vote. Ils ont le droit de vote au municipal.
Alors ça, c'est à Jérusalem. Et effectivement, je crois qu'en Israël, c'est la même chose. Mais en tout cas, oui, les habitants de Jérusalem, et ça, c'est encore plus, enfin, si on peut dire... encore plus scandaleux, dans le sens où Jérusalem, c'est censé être une ville neutre, quoi. C'est censé être une ville palestinienne, en fait. C'est pas censé être partie d'Israël, comme la Cisjordanie, d'ailleurs. Mais, en fait, on se rend compte que la législation israélienne s'applique partout, enfin, quand elle est répressive, parce que, par contre, quand elle est pour les droits, pour la sécurité sociale, toutes ces belles choses que font la démocratie, les démocraties occidentales, républicaines, et capitaliste, quoi. Voilà, il n'y a pas les mêmes droits, quoi. Là la loi ne s'applique plus, quoi. Donc, c'est ce qu'elle dit aussi quand elle s'interroge, Neta, sur donner la nationalité à ses filles, leur donner la nationalité israélienne ou pas. D'un côté, c'est un avantage de leur donner la nationalité israélienne, et elles y ont droit, puisque leur mère, elles y ont droit de deux manières. Parce que leur mère est juive, donc elles sont juives, et donc elles peuvent faire aléa, et aussi parce que leur mère est israélienne, donc elles sont israéliennes. Elles peuvent avoir la nationalité israélienne. Et elles hésitent parce que leur donner la nationalité israélienne, c'est certes un avantage pour avoir la sécurité sociale, etc. Mais bon, se dire qu'elles vont faire 2 ans d'armée. Et puis voilà, est-ce que elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Si elles sont palestiniennes, c'est plus peut-être proche de ses convictions, Neta. En même temps, elle ne veut pas leur imposer son choix à elles, donc elle leur laisse décider. Mais oui, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence. Moi, j'ai trouvé, enfin, mon impression, c'était... Et j'étais très étonnée de ça, en fait. Parce qu'après la mission, j'ai été à une réunion féministe en Israël. Et ça, c'était vraiment très bien, parce que ça m'a permis de découvrir un peu Israël d'une autre manière, en rencontrant des féministes, donc des femmes dont je me sentais très proche. Et c'était pour moi une bonne manière de me réconcilier un peu avec aussi Israël, parce que d'être en Cisjordanie, ça devient vraiment l'ennemi, quoi. On ne voit plus... On a du mal ensuite à voir ça comme un État simplement démocratique. D'ailleurs, c'est pas simplement un État démocratique, et c'est bien ça le problème, quoi.
Enfin, c'est un État démocratique, mais sans les Palestiniens.
Voilà,
enfin, à un moment, ça. On l'entend dans le film.
Voilà, c'est ce qu'ils disent.
On veut une démocratie,
mais on veut un État juif. C'est ça le problème. Ils disent, on veut d'un côté, ils veulent une démocratie, et d'un autre côté, ils veulent un État juif. Donc, c'est une guerre démographique, en fait. Enfin, c'est une lutte démographique de la part d'Israël pour essayer de surtout pas qu'il y ait surtout jamais une majorité d'Arabes, de Palestiniens, parce que ils ont le droit de vote, en fait, en Israël. Mais ils sont que 20%. Donc, et moi, l'impression que j'avais, c'était vraiment que c'était comme les Maghrébins, les Africains, tous les migrants en France, quoi. C'était alors que c'est leur terre, quoi. Mais c'est le même statut un peu par rapport à des citoyens de seconde zone, quoi. C'est leur terre, quoi. Un peu comme en Algérie française, j'imagine. Enfin.
Et quand tu parlais des réunions avec les féministes, qu'est-ce que tu en avais retiré, justement? Enfin, qu'est-ce qui t'avait marqué?
Ça, justement, j'avais été vraiment étonnée de... Tu vois, il y avait un groupe de discussion sur les minorités. Enfin, c'était carrément le thème d'une après-midi. Et bah, les minorités, donc, c'est là que j'ai découvert qu'en Israël, il y a des minorités indiennes, hindoues, enfin d'Inde, parce qu'il y a des minorités juives en Inde, donc elles font aussi Aliya. Éthiopienne, donc ça je le savais, mais voilà, il y a donc minorité éthiopienne, minorité indienne et minorité palestinienne, quoi. Ça m'a vachement étonnée. Et puis tout était en Israël, tout était en hébreu, il y avait quasiment jamais de. Enfin, je voyais toutes les palestiniennes qui étaient là parler hébreu. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont. Peut-être des choses un peu anodines, mais. Et puis surtout, ouais, ce qui m'a marqué, c'est ces deux vieilles dames qui m'ont ramenée après à Tel Aviv, après la Réunion, et qui sont investis beaucoup pour la justice, pour que la justice s'applique, pour que les violences soient moindres dans les checkpoints. Donc elles font des actions d'observation dans les checkpoints, et elles font partie des... Enfin, elles vont manifester avec les femmes en noir, etc. Et à un moment, en fait, elles m'ont dit, mais... Enfin, je leur ai dit, mais vous allez en Cisjordanie à part que, bon, c'est interdit depuis 2003 pour les Juifs, pour les Israéliens, d'aller en Cisjordanie. Avant, ils pouvaient aller. Mais là, c'est très... Justement, c'est interdit, évidemment, pour les Palestiniens d'aller en Israël, sauf sous des conditions très compliquées, en justifiant pour le travail, justement, la famille, etc. Mais les Israéliens n'ont pas non plus le droit d'aller en Cisjordanie. Pour empêcher la réunion, quoi, en fait, pour empêcher de voir, comme on disait tout à l'heure, pour créer ce sentiment de peur, quoi. Et c'est ça qui m'a frappée chez ces dames-là, c'est qu'elles m'ont dit « Ah non, en Cisjordanie, si on va là-bas, on va se faire caillasser, on ne pourra pas faire un pas. » Enfin, elles avaient peur, quoi. Elles avaient peur d'y aller, et elles ne voyaient pas l'intérêt même, en fait, d'y aller. Pour elles, c'était... Et c'est ce que dit Netta, quand elle témoigne qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait peur des Arabes quand elle est partie en Cisjordanie la première fois, quoi. Elle s'est rendue compte de la peur, quoi. Elle s'est dit, mais c'est fou qu'on m'ait inculqué ça, quoi. Et petit à petit, à force, c'est elle qui dit ça, à force de voir les gens, de connaître les Palestiniens. Moi, j'ai adoré cette culture, j'ai adoré cet endroit. Elle se sent partie de ça, quoi. Mais il y a cette peur, ouais, de l'autre qui a entretenu, quoi. Et ça m'a étonnée quand je l'ai vue comme ça, réellement, chez ces dames qui pourtant étaient un peu... était informée et tout, mais qui pouvait pas remettre en question non plus la... Enfin, elles avaient grandi dans des kibboutz, et elles pouvaient pas remettre en question le sionisme, en fait, l'existence... mais c'est quelque chose qui est problématique, enfin, je veux dire, qui demande à s'y pencher, à s'y interroger, etc. Et je crois pas qu'il y a des... Je pense pas qu'ici, on puisse se faire une opinion très précise ou quoi de la situation ou des solutions qui sont à trouver. Je pense que c'est vraiment aux gens d'être libre de proposer, de décider de leur vie, quoi. C'est même plus seulement une question de frontières et de gouvernement, quoi. C'est une question générale du monde d'aujourd'hui, enfin du monde de toujours, j'imagine, quoi, des libertés qu'on a à s'autodéterminer, quoi, comme peuple, d'abord comme ville, comme village, comme peuple, comme voilà, enfin, je m'écarte peut-être, mais...
Non, moi, je voulais revenir sur l'idée, justement, des deux mondes séparés. Tu dis qu'effectivement, on interdit aux Israéliens d'aller en Cisjordanie. Néanmoins, il y a quand même une façon d'y aller, c'est quand on est militaire. Et tous les Israéliens font un service militaire qui est quand même très long. Je crois que c'est 3 ans, les filles et les garçons. Donc, ouais. Globalement, tous les jeunes Israéliens, là, et beaucoup d'Israéliens y sont passés. Mm-hmm. Quel est le rapport, du coup, de la société à ces émissaires qui vont, justement, dans ces territoires, qui commettent souvent, quand même, des exactions, ou qui, au moins, en sont témoins? Quand ils reviennent, est-ce qu'ils le racontent? Est-ce qu'il y a une chape de plomb là-dessus? Est-ce que c'est un petit peu comme nous, notre histoire, par exemple, sur la guerre d'Algérie, où il y a eu des tas de choses qui se sont faites et qui n'ont pas été dites, qui ont été tues? Est-ce qu'il y a une honte des soldats qui reviennent? Est-ce qu'ils en parlent ou ils sont révoltés? Est-ce qu'ils essaient justement de sensibiliser la population à ça?
Non.
Non.
Mais enfin, moi, je peux pas dire, j'en sais rien. J'ai pas parlé avec des militaires. Sauf pour leur demander s'ils voulaient mon papier bleu ou mon papier blanc, ce que je voulais dire, on a rencontré par contre dans une manifestation, il y a les anarchistes israéliens qui sont les seuls à aller en Cisjordanie pour participer aux manifestations, pour se solidariser en tant que citoyens israéliens avec les citoyens palestiniens, quoi, et pour dire on est de la même terre, on est d'ici, grandissons, enfin tu vois, Et qui crie avec les autres « Free Palestine, Free Palestine !» quoi. Et surtout qui, justement, ce jour-là, une manifestation où on était, ils interpellaient en hébreu les militaires. Et ils leur disaient « Mais déposez les armes, refusez de faire le service, tout ça. » Mais c'est incroyable, l'endoctrinement, j'ai l'impression. On le voyait dans les regards de ces jeunes, parce qu'ils sont jeunes en plus. Quoi. C'est ça qui est impressionnant. Les militaires, on dirait qu'ils ont 16 ans. Quoi. Ils ont en fait 16 ans, je crois. Ils sont très jeunes.
Mais d'ailleurs, j'avais entendu Gideon Levy, qui est un des journalistes de Haaretz, qui est un des grands quotidiens israéliens, et qu'on a d'ailleurs enregistré pour l'émission Les Oreilles Loin du Front. Donc on peut réécouter sur Internet, j'en profite pour le dire, sur www.loldf.org. Et Gideon Levy parlait de ces jeunes militaires. Donc effectivement, le truc, c'est qu'ils sont déjà très très jeunes. Donc quand ils vont sur place, ils sont tellement endoctrinés que il y a un tel endoctrinement qui fait que d'ailleurs on voit pas. Enfin, par exemple, si vous êtes dans un avion de chasse, d'ailleurs vous voyez même pas la cible que vous visez. On vous a tellement mis dans la tête que voilà, les Palestiniens étaient vos ennemis, que de toute manière on y va. Et ceux qui par contre reviennent plutôt traumatisés, s'étaient réunis en groupe. Alors je pourrais plus dire le nom exact du groupe, mais on ne les croit pas quand ils reviennent sur place. Ils sont déjà une minorité et ils ne sont pas du tout considérés par les Israéliens. C'est pas possible ce que vous nous racontez. Donc il y a vraiment un endoctrinement global, mais tu parles aussi de la peur, même ces femmes qui sont quand même ouvertes, qui réfléchissent, qui ont peur d'aller là-bas. Donc même ceux qui vont là-bas déjà dans une situation plus compliquée, de guerre, reviennent et n'ont pas forcément... sont trop jeunes pour réaliser, quoi.
Il y a le dernier film, enfin je pense que c'est le dernier film de Avi Moghrabi aussi qui parle de ça. Avi Moghrabi, qui est un cinéaste israélien qui a un cinéma très particulier d'ailleurs, et qui donc dans son dernier film il filme la prise de conscience d'un jeune soldat repenti un peu. Qui au début, et notamment sa relation avec une Israélienne, ils sont très jeunes aussi, ils ont une vingtaine d'années, et elle est beaucoup plus consciente, quoi, beaucoup plus révoltée, elle refuse de faire le service, qui est plus facile pour les femmes de refuser de faire le service que pour les garçons, mais qui est possible. Les anarchistes, par exemple, là, en question, refusent. Alors ça, Neta, elle analyse ça, elle dit, de toute façon, l'État laisse toujours une minorité, de l'élite d'extrême-gauche. Il y a toujours une partie de l'élite d'extrême-gauche. Ça va, il laisse faire, parce que c'est l'élite et tout ça. Bon, c'est un peu pareil partout, d'ailleurs. Mais ce qui est important, hein, parce que ça leur fait prendre conscience. Mais en tout cas, ce film, ouais, il est fort pour ça, parce que tu vois ce soldat qui, au début, est très fier d'avoir tué un Palestinien, en fait. Un Palestinien qui n'a rien fait, qui passait par là. Et la fille, sa compagne, lui le confronte, en fait, à la barbarie de ce qu'il a fait, quoi. Et ils retournent sur les lieux, etc. Bon, après, voilà, c'est la question générale de pourquoi les gens... Enfin, comment... Mais je pense que c'est une question essentielle, quoi. Comment les gens en arrivent à participer à la barbarie, quoi. On peut penser au film S21 aussi, quoi.
C'est qu'il y a eu déjà aussi une déshumanisation complète de l'ennemi que tu as en face de toi.
Oui, c'est-à-dire
on déshumanise les Palestiniens. Et Gideon Levy, je reprends encore cet exemple-là, disait qu'on va, par exemple, vous ouvrez un journal et les morts palestiniens, vous allez voir un tout petit encadré... Ouais. Page 21, et par contre en première page vous aurez un chien israélien de l'armée a été tué lors du raid de l'année dernière, donc c'est assez parlant par rapport à la déshumanisation.
Mais c'est ce que...
غالباً ما رأيت تلاشي الأفق يغطي الخراب والرماد مستقبلي وأحذية الجنود والدبابات تطحن جسدي رأيت كثيرا فجفت عيوني لم يتبقى لي دموعا لأظرفها أنا لست حيا ولكن لست ميتا لا تتعجلوا حفر قبري تعلمت أن أحيا ثانية من تحت الرماد لهذا خسر الذي يضطهدني ذاك الذي عمل على تدميري يقويني أصبحت صخرة لا يمكن تحطيمها لأن ريح الحرية تنفخ في ذاتي مثل قوة
سأكون واقفا وثابتا عند شروق الشمس. سيكون لدي القوة لأعيد غرس الشجرة في الأرض وأصبر لأراها تكبر عند غروب معاناتي وشروق حريتي شروق حريتي.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous parlons de la Palestine. Alors, nous sommes avec Elsa Bloch qui a fait un documentaire Control Alt Sup sur la Palestine. Et alors, toi, tu as tourné l'automne 2008 et juste après, il y a eu la guerre à Gaza, on va appeler ça comme ça.
Ouais, on pourrait dire l'offensive israélienne sur Gaza.
Oui, parce que, évidemment, les rapports entre armées ne sont pas. On ne correspond pas à une guerre. Est-ce que ça a changé ta vision du film ?
Ouais, ça a été vachement dur pour le film, c'est vrai. Parce que tout d'un coup, ça me semblait... Enfin, en même temps, ça m'a motivée. En même temps, ça a été vraiment terrible. Parce que c'était vraiment en rentrant, moi, je suis revenue... En fait, le retour a été assez difficile, plus que le voyage. Je m'attendais à un voyage très difficile... je sais pas, plein de... Bon, ça a été plein de violence et tout. Mais je crois que le pire, au moins, c'était le retour, quoi. C'est d'avoir tellement de mal à en parler, quoi. Et à être entendu, en fait. J'ai trouvé très peu de personnes qui arrivaient vraiment à interroger ce que j'avais pu voir là-bas. Tout de suite, les gens ont déjà leur opinion ils sont un peu sur la défensive ou déjà convaincus ou je sais pas, enfin, ou se sentent déjà... Enfin, bon. Donc, bon, c'était, voilà, pas très facile le retour. Et là, Gaza, quoi. Comme nous tous, j'imagine, enfin, comme un peu plein de gens dans le monde. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mobilisation, quoi. Les manifestations à Paris, c'était impressionnant, c'était grand, quoi. Mais c'était un choc, quoi, ouais. Choc, parce que... Et puis, un sentiment d'impuissance terrible, quoi. C'était... Du coup, le film, d'un côté, ça me motivait vachement pour le faire. D'un côté, je me disais, mais ça décrit une réalité qui est peut-être plus la même et puis qui n'est pas au niveau... Enfin... C'est sûr que des trucs comme ça, ça te donne envie d'aller, là, pour le coup, avec ta caméra et faire les images, des corps. Enfin, moi, ça me donne pas envie, mais il y a des gens qui le font, quoi. Mais c'est important. Enfin, moi, je regardais tout le temps Al Jazeera, donc du coup, à ce moment-là, où il y avait beaucoup plus d'informations, en fait, sur ce qui se passait, notamment sur les bombes chimiques et tout, qui ont été balancées. Et oui, bah, par rapport au film, ouais. Bah, en même temps, ça m'a motivé, c'est sûr, Ça a motivé cette envie de le faire exister, ce film, parce que c'était, comme j'ai dit hier à la projection, c'était difficile de... Ça a été difficile, quoi, le montage, parce que comme le fait de ne pas avoir d'idée, de ne pas l'avoir écrit avant, de ne pas connaître les lieux ni les gens, d'avoir tout pris un peu comme ça à l'arraché, ça donnait un objet, enfin, ça me donnait des rushs un peu bordéliques, un peu qui parlaient un peu de tout et de tout à la fois, donc beaucoup de choses à y mettre et renoncer à des choses qui étaient dites, c'était pas évident, etc. Bon, en tout cas pour Gaza, je pourrais dire ça avait fait que le film s'est terminé autrement à cette époque. Tu vois, j'avais fait une première version 6 mois après, et maintenant le film il se termine vraiment sur une note d'espoir, et c'est vraiment ce que je voulais. Enfin, parce que comme je disais hier, j'ai trouvé plein de beauté moi là-bas, plein de lumière, alors que j'attendais de trouver beaucoup d'ombre. Et donc ça, je voulais le mettre comme ça, quoi. Mais par contre, 6 mois après, ouais, après Gaza et tout ce bordel, toute cette barbarie, ça finissait sur des gens qui disaient, justement, les Cisjordaniens qui disaient, bon, nous c'est ça, mais c'est rien par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ça finissait sur un type que j'ai rencontré à Jérusalem par hasard, qui s'occupe, lui, ça fait la forme de résistance, c'est de s'occuper d'enseigner la musique et de s'occuper des gamins qui habitent dans les rues à Jérusalem et qui sont vachement enfermés, qui subissent vachement de violence et qui du coup sont parfois dans des trucs violents, quoi. Et parce qu'il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'horizon, quoi. Enfin, voilà. Donc, mais ouais. Et donc il disait mais moi j'ai des amis à Gaza, ils m'appellent, il n'y a pas d'eau. Ça c'était avant la guerre, hein, c'était en novembre, juste avant. Il disait il n'y a pas d'eau. il y a pas de téléphone, il y a pas de nourriture, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas bouger, il y a pas de travail, c'est la misère, et ils m'appellent tous les jours, et tous les jours j'essaie de leur remonter le moral et tout. Tu vois, et puis ça c'était, et puis ça finissait là-dessus le film, et j'avais mis image prise un mois avant, quoi. Un mois avant l'offensive. Alors je me suis posé beaucoup de questions sur comment je le mettais d'ailleurs, mais finalement j'avais mis un mois avant l'offensive israélienne, je crois.
Et est-ce que tu as gardé contact avec les gens que tu as rencontrés là-bas?
Avec Raed, par exemple, chez qui on habitait, oui, quand il vient en France, on essaye de se croiser. C'est pas très fréquent, mais il vient quand même parfois. Il a sa sœur qui habite ici. Les autres... en fait, quand j'ai eu fini le film, là, la deuxième version, j'ai tous envoyé un mail et ils m'ont pas tous répondu. Alors je... Non, il y a des... J'ai pas de... Par exemple, Neta, je lui ai écrit deux mails. Je sais qu'il y a des amis avec qui j'étais là-bas, enfin, qui sont devenus des amis, quoi, qui se sont retournés là, en Vallée du Jourdain, et qui l'ont croisé, qui ont été... et donc qui lui ont parlé du film, et qui lui ont parlé de... qui l'avaient vu dans le film et tout ça. Et elle était super intéressée. Elle m'a dit... elle leur a dit, il faut qu'elle me contacte. Mais pour l'instant, j'ai pas de retour. Mais c'est la prochaine étape, là, en fait, justement. Je suis en train de faire la version anglaise, là. Parce que comme pas mal sont anglophones, là, je suis en train de... Enfin, on commence à... En janvier, je pense qu'on va faire les sous-titrages en anglais avec une amie qui est angliciste. Et puis l'emmener là-bas, quoi. Je sais pas si j'irai moi ou si... Enfin, j'aimerais bien y retourner, moi, revoir tous ces gens et leur montrer et qu'ils me valident vraiment le contenu du film. Parce que s'ils ont donné leur accord pour que ce film existe, ils ont pas vu, quoi, l'objet encore. Donc ça, c'est la prochaine étape.
Oui, parce que d'une certaine façon, ce qu'on voyait dans le film aussi, c'était l'importance du témoignage, de la parole donnée, pour valider aussi leur lutte. Il fallait qu'il y ait des gens qui...
Bah, moi, c'est ce qui m'a motivée, en tout cas. Vraiment, là-bas, souvent, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on fout là, quoi. On se dit, putain, mais à quoi... Enfin, quel sens, ça, quoi. Et puis, ouais, voilà, ça fait un peu, comme je disais, touriste, quoi, touriste du désastre, quoi, touriste politique, quoi, on sent un peu touriste malgré tout, des fois, quoi. Mais eux sont, bon, au-delà de l'accueil qu'ils ont de l'étranger, qui est culturel, qui est incroyable, que moi, qui m'a fait aimer d'avance le Moyen-Orient, j'ai vraiment envie de connaître tous ces gens, toute cette zone, toutes ces cultures, parce qu'il y a une qualité, il y a une notion de l'accueil, du collectif et tout, que j'ai trouvé très forte, quoi. Et il nous disait toujours, il nous rassurait un peu, enfin, il devait bien voir que... On se demandait, il disait, mais témoignez en rentrant, dites simplement ce que vous avez vu, ce qu'on vous a dit, et tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'ils acceptaient toujours d'être filmés, parce que c'est risqué pour eux, tu vois. Le mec du circuit alternatif, je le connaissais pas, je débarquais avec un groupe, donc pour le coup, c'est vraiment du tourisme, du tourisme politique, et c'est comme ça qu'il le défend et qu'il le fait. Et bon, je l'ai filmé et je lui ai demandé, bien sûr, enfin, de toute façon, il y a une caméra en face de lui, hein, donc il va pas... faut bien lui en parler avant, mais on a échangé trois mots, et il m'a dit oui, pas de problème, et en même temps, après, et d'ailleurs c'est dans le film, il dit, moi un jour, il y a un mec qui est venu, qui m'a filmé, il a enregistré tout ce que je disais sur un CD, et il a été le donner à la police. Alors la police me convoque et me dit, il me fait entendre ma voix. Et alors lui, il dit, moi j'ai rigolé, je leur ai rigolé à la face, quoi, et je leur ai dit, mais attendez, tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de me faire entendre ma voix, je peux tout vous répéter si vous voulez. En plus, tout ce que je dis, c'est, ça vient d'organisations israéliennes. Ça vient d'organisations...
Des informations...
Oui, c'est des informations officielles, en fait, c'est rien d'autre que des informations officielles. Quand il dit 80% du mur sépare des Palestiniens de Palestiniens... c'est une information de population, je veux dire de chiffres, quoi. C'est pas... Ou quand ils nous montrent des endroits, enfin, il y a rien de... Ils peuvent pas lui dire que c'est illégal, quoi. Mais ils lui mettent la pression, ils peuvent l'emprisonner du jour au lendemain. Là, bon, dernière nouvelle, lui, il m'a répondu, par exemple, et j'étais rassurée de savoir qu'il continue, quoi. Il continue, et je pense que, de toute façon, si c'est pas lui, ce sera d'autres. Et Neta l'a fait aussi, ça. Je pense que c'est un des trucs qui se fait. Mais lui, avant, il emmenait des Israéliens. Et c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait prendre des Israéliens, des touristes israéliens, et leur montrer la situation de Jérusalem. Lui, il le fait à Jérusalem, en faisant le tour du mur, etc. Donc,
mais c'est tous ces actes de résistance justement que tu montres dans le film. Et quand tu dis aussi, ouais, parfois on peut se sentir mal à l'aise en disant, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Il y a un moment dans le film où il y a un homme qui a un regard d'ailleurs perçant quand il vous regarde face à la caméra, qui est un cultivateur d'olives, je crois d'ailleurs, qui vous regarde et qui dit, ouais, c'est peut-être pas grand-chose de venir nous aider à faire la cueillette d'olives, mais au moins on sait que, tiens, de l'autre bout du monde, là en France, il y a des gens qui sont déplacés simplement pour montrer leur solidarité avec nous. Bah, nous, déjà, ça nous donne la force de rester, et la détermination. Donc peut-être que là, tu montres aussi une autre forme de solidarité qui n'est pas uniquement voilà, du voyeurisme ou un tourisme, comme tu dis, de misère. Quoi.
Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est ça qui finit le film, et je pense que c'était important, même si j'avais peur que ça fasse un peu prétentieux, de dire « Ah, merci d'être venu, heureusement que vous êtes là », mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est important, et c'était aussi pour encourager les gens à aller là-bas, à participer à ce genre de mission, ou d'une manière ou d'une autre, à se mettre en contact avec l'autre, quoi, en fait, les populations autres, quoi.
Et justement, comment être solidaire au quotidien avec les Palestiniens ?
Bah ça, je pense qu'il y a plein de façons. Peut-être à chacun. Je crois qu'il y a un truc important. Justement, ça revient. C'est un peu la question du début. Tu m'as demandé pourquoi j'ai fait ce film. Et moi, j'ai la sensation que quand on a envie de faire quelque chose, ça légitime c'est quelque chose déjà en fait. Que si on veut faire un film sur la Palestine alors qu'on est, tu vois, une fille française, Moi, je me suis demandé, en plus d'origine juive, enfin, on peut s'interroger sur la légitimité qu'on peut avoir ou pas, ou justement, oui, non, mais je crois que l'envie, simplement, est déjà une légitimité et donne un sens, déjà, à ce qu'on fait. Et après, je pense que, voilà, du coup, il peut y avoir plein de choses à faire en fonction des envies de chacun. Ça peut être créer des liens de solidarité, ça peut être des choses toutes simples comme acheter de l'huile d'olive sur un stand d'une des associations de solidarité, comme il y en a, ou ça peut être, par exemple, acheter des produits palestiniens, par exemple. Bon, boycotter les produits israéliens, comme on encourage la campagne BDS. Mais il y a plein de moyens. Moi, je crois que c'est surtout s'interroger, en fait, je crois. Essayer de se poser des nouvelles questions, quoi. Essayer d'en savoir plus, toujours, quoi. Enfin, moi, c'est ça, je crois, mon truc. Mais je crois qu'il y a plein de façons, tout aussi. Et c'est ce que j'ai vu aussi là-bas, quoi. Et plein de façons de lutte. Celui qui fait le circuit alternatif, celui qui fait des cours de musique et qui soutient le moral de son copain à Gaza. Un État qui recueille des informations sur toutes les luttes à travers le monde et qui travaille sur des analyses. Il y a plein de façons, mais en tout cas, aller là-bas, il y a pas mal d'assos qui font ça et tout, donc ça peut être un moyen, quoi. Après, acheter aussi les produits des coopératives. En Plaid, il a monté une coopérative qui s'appelle Al-Sanabel, je crois, et qui est donc dans la région d'Hébron. Eux, ils ont monté une coopérative qui est... Ça, je pense, c'est une vraie action qui coûte pas grand-chose, sinon... c'est de l'achat, on dit l'achat solidaire, quoi. Mais de faire une fête en avec les jus de raisin de Raed. J'aurais bien aimé le faire hier. On a fait une petite fête après. J'aurais bien aimé, mais là c'était un peu rapide. Mais j'espère le faire un jour, quoi. Parce que donc ils se réunissent en coopérative et ils fabriquent du jus de raisin qu'ils essayent de vendre, ce qui est vraiment pas facile. Après, je pensais beaucoup aussi les liens. Par exemple, il y a beaucoup d'échanges, mais il y a beaucoup de... Je pense qu'il faut se tourner vers les Palestiniens, tout simplement. Parce qu'ils ont plein de choses, ils proposent plein de choses, quoi. Et puis les différentes associations en France, bien sûr, mais eux, par exemple, il y a beaucoup de liens entre inter-écoles, par exemple. Des écoles des universités, ou... Enfin, voilà, il y a plein... Chacun dans son domaine, il y a quelque chose à faire, quoi.
Et pour ton film, est-ce que tu vas essayer de le balader un peu à droite, à gauche, dans le circuit
Ouais, j'espère. Bah, j'ai eu la grande étonnement et grande satisfaction d'être que le film soit sélectionné dans un premier festival à l'automne, là, à Ajaccio. Bon, ils l'ont programmé à 10h du matin, mais bon. Donc il n'a pas dû avoir une grande visibilité. Mais ça donne, en tout cas, ça donne un plus au film, parce que le fait qu'il soit sélectionné dans un festival, ça donne envie de le voir. Et puis là, il a été sélectionné au Festival du film des droits de l'homme à Paris en mars. Donc il sera projeté en mars. Moi, j'espère. On a fait une projection associative à Tarbes, qui était super, vraiment, qui était à l'initiative d'une amie, d'amis, qui est au Parti communiste et qui a dit, donc il y avait un peu de moyens, elle m'a dit, ah, plutôt que toujours organiser des conférences politiques, on va faire un truc sur la Palestine et ton film est super, on va le montrer aux gens et ça va les informer un peu différemment sur la situation. Et puis elle a organisé tout ça avec une autre amie. Et puis voilà, ça a été bien. Il y a une petite cinquantaine de personnes qui ont dû voir le film ce jour-là. Pas mal des militants de Pau. Parce qu'en fait, donc, tous les gens avec qui je suis partie, c'était pas mal des Nantais. Mais donc il y en a un qui est parti à Pau entre-temps. Donc j'espère vraiment aussi via les AFPS locales, en fait. Ça, c'est une démarche que je vais faire maintenant. Parce que voilà, maintenant, je suis dans la phase de diffusion, quoi. J'ai vraiment envie. Mais cette idée de le projeter dans des cadres militants, ça me plaît bien, parce que c'est, je pense que ça apporte, surtout à des gens qui s'y intéressent pas encore. Je pense que le film, il a un bon support de discussion, en tout cas. Voilà, moi, venir en parler après, en débattre. Avec plaisir, ou alors que les militants eux-mêmes s'en servent comme support pour parler de ce qu'ils en connaissent, etc. Donc voilà.
Alors ton film montre vachement tous les terrains de résistance, tous les champs de lutte que les Palestiniens mettent en place avec une force et une conviction très très forte, au moins à la hauteur de l'acharnement que mettent les Israéliens à leur rendre la vie impossible. Mais sur le plan politique, c'est une question qui est peu abordée dans ton film, un petit peu à la fin. Est-ce que toi, tu entrevois une issue politique à ce conflit-là qui dure quand même ? Alors, je ne te demande pas évidemment de trouver la solution à un problème qui mobilise déjà nombreux cerveaux.
J'ai fait un rêve.
Mais est-ce que toi, tu en avais une idée avant, par exemple ? Est-ce que cette idée a été bousculée par ton voyage là-bas, par ces rencontres que tu as faites ? Est-ce que du coup, aujourd'hui... tu penches d'un côté ou l'autre, on parle d'un état binational, on parle de deux nations, entre autres, ouais. comme solution possible à ce conflit.
Ouais. Moi, la solution qui est dans le film, enfin, ce qui est ressorti, parce que moi, les solutions, je crois pas l'idée que je puisse moi avoir de la solution, ce soit. Je pense que c'est aux gens là de trouver des solutions. Je pense que nous. On peut trouver des solutions pour nous, quoi, pour s'organiser. On peut faire des propositions, on peut réfléchir, hein, tout. Et après, des solutions. Bon, Neta, elle dit, des solutions. C'est pas le problème des solutions. Les solutions, il y en a plein. Comme tu dis, il y a l'État binational. On peut vivre en deux États, l'un à côté de l'autre, sur les frontières de 67. On peut être un seul État, mais démocratique, avec tout le monde les mêmes droits, et pas des dons qu'il faut renoncer à un État juif. Mais ça ne veut pas dire que les juifs doivent rentrer chez eux ou je ne sais quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure quiconque, c'est juste un état avec les gens qui sont là maintenant, mais que tout le monde ait les mêmes droits, quoi. Et donc voilà, des solutions, elle dit, c'est pas le problème des solutions, quoi. Les solutions, il y en a plein. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune volonté internationale de mettre la pression à Israël. Parce que le problème, c'est la politique d'Israël, quoi. C'est la politique de colonisation, d'apartheid, de répression. C'est ça, le problème, quoi. Et le problème, c'est, comme dit aussi un paysan, là, il dit, le monde n'est pas aveugle, le monde est lâche, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que la communauté internationale, ou même... Bon, peut-être ça devient au-delà des communautés internationales. À un moment, il faudra peut-être essayer de réfléchir à d'autres solutions pour le monde, quoi. Je pense que on est dans... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on a besoin de trouver des solutions pour l'humanité, quoi. Pour comment on s'organise pour vivre autrement que dans ce genre de gouvernance capitaliste et républicaine et ou quoi ou qu'est-ce, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser ? Est-ce qu'on... Enfin, voilà. Après, ouais, le problème, c'est de laisser les gens réfléchir à proposer des solutions, quoi. C'est pas tellement est-ce qu'il faut un État fédéraliste ou un État je ne sais quoi. Non, c'est laisser les gens vivre libre, quoi. Mais moi, la solution qu'il y a dans le film, c'est un État. L'État. Un État pour deux peuples, un État pour tout le monde, quoi. Ça, c'est la solution. C'est ce que, comme tu dis, on voit un peu à la fin du film. Parce que moi, quand j'ai interrogé les gens là-dessus, justement, la question que tu m'as posée, je l'ai posée aux gens. Et quasiment tous ceux qui j'ai vus, donc les 3-4 personnes qui sont dans le film, les 3-4 défendaient vraiment la solution de un État. À mon grand étonnement, d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait, et j'ai trouvé ça super comme perspective, quoi. Et parce que c'est un peu trop tard, quoi. Comme il dit, le mec de Cirque Alternatif, finalement, ça, je ne l'ai pas laissé dans le film, mais lui, il disait ça. Il dit, la seule solution maintenant, c'est un État. Parce que Israël a... À chaque fois qu'Israël propose la solution de deux États, le problème, c'est qu'il veut échanger des terres. Il veut échanger les colonies contre des villes en Israël qui sont palestiniennes et qui sont enserrées de murs... Enfin, donc ça veut plus rien dire. Il y a pas, c'est pas deux États. C'est pas, ils sont pas d'accord pour ça. Ils ont flingué ça. Il dit. Et lui il disait un État, c'est ça. Ça fait peur à Israël, un seul État. Mais c'est ça. Et ça viendra. Lui dit. Il dit ça viendra de toute façon. Maintenant c'est inéluctable quoi. C'est, il y a plus de frontières. Mais bon, moi je comprends qu'on puisse pas être d'accord avec ça et parce que ça va aussi dans une idée d'intégration des Palestiniens dans un État israélien. Si c'est ça, c'est pas bon. Enfin, donc. C'est délicat, mais en tout cas, eux, ce qu'ils disaient, enfin, moi, les gens, donc, et que ce qui restait un peu dans le film, c'est cette solution-là, quoi. Mais je pense que, comme dit Netta, ouais, c'est pas le problème des solutions, c'est le problème qu'il faut les laisser. Faut arrêter, faut faire en sorte qu'Israël arrête cette politique, quoi.
Alors, pour continuer à réfléchir, j'imagine qu'on va pouvoir tenter de voir ton film. On peut peut-être l'acheter quelque part, le contacter, quelque chose.
Oui, bonne question.
Question non négligeable.
Avant de venir à l'émission, d'ailleurs. Écoute, je ne sais pas si on fait une autre pause musicale, peut-être je peux réfléchir à la... Non, mais je dis ça, mais en fait, je pense qu'une pause musicale, ça ne sera pas assez long pour que je trouve la... Non,
mais déjà,
en fait,
tu as des DVD qu'on
j'ai
peut
des DVD, oui, voilà, on peut me contacter voilà, sur mon, sur
on
mon
mettra,
mail.
On mettra
voilà.
Le lien sur notre site.
Absolument.
Internet.
Non, pour l'instant, la seule solution, d'ailleurs, sur le DVD, j'ai mis mon mail, et donc c'est de me contacter et de me demander un DVD. Et c'est avec grand plaisir que je vends les DVD à prix libre. Donc je les fabrique moi-même, mais c'est vrai que justement, j'aimerais bien faire une édition DVD d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un peu beaucoup de boulot en fait de les faire moi et en plus je pense que ce serait mieux si c'était pressé, enfin bon question de technique je pense que... mais il y aura peut-être une édition plus tard, j'ai bientôt l'intention de faire un blog, enfin une...
bon, on mettra tout ça sur le site internet, on trouvera les liens, voilà. Comme ça on pourra actualiser
voilà, super.
Bah, en tout cas merci beaucoup.
Bah, merci à vous, c'est fini déjà.
Et ouais,
c'était pas si dur.
Mes malheurs, je ne les dirai pas. Combien de journées sans repas. Il y a des aveux inavouables à confier au vent de sable. À confier au vent de sable. À la forêt, à la rivière, je dédie nos insurrections. Et je maudis vos meurtrières prières. Et vos odeurs de couvent. Et vos odeurs de couvent. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires sans souffrance. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires de Côte d'Ivoire. Ma France, quelle histoire. Ici bas n'a d'égal que le beuglement du monde qui dans les rumeurs parle les balles et revit en rumeurs de scandale sous les étoiles et dans la poussière. L'Amérique est une femme sans histoire qui raconte des histoires à qui veut croire. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. L'Amérique est une femme sans histoire qui aime faire son shopping à Bagdad le soir. L'Amérique, quelle histoire. Mes malheurs aujourd'hui sont à vendre aux marchands d'armes de scoop et de beurre qui à coups d'axe du mal et de terreur
nous imposent leur nouvelle cabale et nous rendent complices et conspirateurs. Israël est une femme sans histoire qui raconte des histoires coloniales. Madame a fait souffrir le monde, Madame fait encore souffrir le monde. Israël est une femme sans histoire qui se mure et se cache derrière sa halle. Israël, quelle histoire! Le monde arabe est un homme sans histoire qui raconte des histoires féodales. Monsieur est un monde qui fait bande à part. Monsieur veut couper les Arabes. Il noie le poisson dans du pétrole et pêche le poison en terre d'islam. Le monde arabe, misère noire. Sans histoire qui raconte des histoires sans queue ni tête. Monsieur a fait souffrir le monde, Monsieur fait encore souffrir le monde. Oncle Sam est un homme sans histoire qui a mis